Bonsoir, les participants aux travaux du premier forum Café Cacao de la RDC qui s'est clôturé la semaine dernière à Kinshasa ont recommandé notamment au gouvernement d'allouer 10% de son budget à l'agriculture selon l'accord de Maputo signé par les chefs d'État africains. Au cours de ce forum, la thématique axée sur le financement, l'investissement et le partenariat public-privé a relevé que la fiscalité lourde et asphyxiante, les tracasseries administratives et la multiplicité des barrières freinent le développement de ce secteur. Quelle analyse faire des recommandations issues de ce forum? C'est la question de base ce soir. Et pour en parler, nous serons avec Dominique Béa, conseiller juridique et administratif au ministère de l'Agriculture, qui fait d'ailleurs son entrée dans ce studio de Radio Okapi. Dominique Béa, bonsoir.
Bonsoir.
Emmanuel Roy Kagara, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en ligne et vous êtes administrateur de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, et président du comité professionnel Café Cacao sur la RDC. Mani Madika, professeur à la faculté d'agronomie de l'université de Lubumbashi, vous avez aussi travaillé dans la filière Café Cacao dans plusieurs ONG internationales. Mani Madika, bonsoir.
Bonsoir.
À tous, bienvenue dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le premier forum Café Cacao de la RDC organisé à Kinshasa s'est clôturé la semaine dernière et les participants ont recommandé notamment au gouvernement d'allouer 10% de son budget à l'agriculture selon l'accord de Maputo signé par les chefs d'État africains. Au cours de ce forum, la thématique axée sur le financement, l'investissement et le partenariat public privé a relevé que la fiscalité lourde et asphyxiante, les tracasseries administratives et la multiplicité des barrières freinent le développement de ce secteur. Un compte-rendu signé ici, Daniel Tambinzoni.
La thématique sur la production, la recherche, la transformation et les infrastructures a identifié, entre autres contraintes, le manque de semences améliorées, le vieillissement des vergers et plantations et aussi l'absence de relève. Elle recommande la collaboration avec l'INERA pour la multiplication des pépinières de proximité et au gouvernement d'allouer 10% de son budget à l'agriculture selon l'accord de Maputo signé par les chefs d'État africains. Une autre thématique a tablé sur le financement, l'investissement et le partenariat public-privé. Elle relève une fiscalité et parafiscalité lourde et asphyxiante, tracasserie administrative et multiplicité de barrières. Elle recommande aux décideurs d'instaurer une fiscalité attractive et allégée et de réduire d'un tiers les taux de taxes perçues par les services de l'environnement. C'est au total plus d'une cinquantaine de recommandations que le ministre de l'Agriculture a promis de couler sous forme de programme et en assurer la mise en œuvre en vue de la relance de ces deux filières, café et cacao.
Dominique Béa, conseiller juridique et administratif au ministère de l'Agriculture. Le café et le cacao, en RDC, on en parle ce soir, et ont longtemps été ces dernières années parmi les ressources oubliées du pays. Qu'est-ce qui, selon vous, explique leur retour en grâce ces derniers temps et surtout le forum qui leur a été consacré la semaine dernière à Kinshasa?
Merci pour la parole. D'abord, il ne faudrait pas oublier que ou perdre de vue que la vision du président de la République, chef de l'État, était de diversifier l'économie du pays, notamment avec la relance de l'agriculture. Nous ne pouvions pas relancer l'agriculture sans parler du café et du cacao. Et le forum qui s'est tenu avec nos partenaires de la FEC, il ne faut pas l'oublier non plus, c'est sous le haut patronage du chef de l'État. C'est-à-dire que c'est une vision du gouvernement qui veut que l'agriculture revienne au centre, plutôt qu'à un moment donné, comme la politique était dirigée vers les minéraux, etc., etc., que nous revenions maintenant pour, dans le sens d'aller dans une forme d'autosuffisance alimentaire. Et cela n'était possible qu'en relançant des secteurs qui ont porté par le passé. D'où l'initiative qui a été prise par le chef de l'État, avec des instructions précises au Premier ministre et à notre ministre, pour que l'on puisse mettre en œuvre un cadre de concertation qui peut fixer, comprendre pourquoi ce produit n'a plus été commercialisé comme par le passé, faire un diagnostic et lever, proposer des pistes de solutions pour que nous puissions le relever et avancer. Donc il faudrait que nous contextualisons les choses. Donc si ce forum a eu lieu, c'est parce qu'il y a eu une vision que l'on a voulu matérialiser et donner forme et prendre en compte les recommandations qui découleront. Et comme l'a dit le ministre de l'Agriculture, son Excellence Georges Kazadi, ces recommandations, pour la plupart d'entre elles, seront coulées en forme de programme, présenté d'abord au niveau du Conseil des ministres, validé pour que on puisse le couler en programme et voir leur applicabilité.
Mais Dominique Béat, permettez-moi d'intervenir à ce stade. Je vais vous poser une question un peu sévère, hein, mais ce n'est pas une sévérité qui est personnelle, mais disons que c'est une sévérité qui est issue du constat qu'on fait actuellement. Est-ce que le gouvernement a vraiment un programme sérieux pour relancer l'agriculture et atteindre cette autosuffisance alimentaire? Je pose cette question notamment pour illustrer avec un cas qui a été un échec, hein, c'est reconnu par le gouvernement lui-même, les fermes de Bukanga, Lonzo et consorts. On voit bien que ça n'a pas donné les fruits escomptés. Est-ce que ce n'est pas après avoir, pardonnez-moi le mot, échoué avec Bukanga, Lonzo qu'on s'est dit essayons de trouver une autre ressource où on peut s'accrocher?
Pour le terme échec pour Bukanga, Lonzo, je ne pense pas. Parce que jusqu'à ce jour, le gouvernement travaille d'arrache-pied sous la direction ou l'impulsion du chef de l'État directement pour voir comment relancer les activités au niveau de Bukanga, Lonzo. Puisqu'il y a eu beaucoup d'éléments, notamment liés à la technicité. Je suis juriste, donc les agronomes qui ont travaillé sur le terrain comprendront. Il y a eu beaucoup d'éléments liés à la technicité même du développement de ces terres-là qui se sont posées, et aujourd'hui au moment où je vous parle, des solutions sont prises. Le ministère de tutelle, le portefeuille, l'agriculture travaille, et il y a des partenaires déjà qui sont disposés à réinvestir et à refaire des études de faisabilité sur le sol, le sous-sol, de manière à ce qu'il soit rentable. Je ne pense pas que Bukanga, Lonzo soit un échec. C'est peut-être que l'approche n'a pas été tous les paramètres liés au développement n'ont peut-être pas été prise en compte, mais des instructions étaient données par le chef de l'État.
Mais à ce jour, quel est donc ce plan concret dont dispose le gouvernement par rapport à la relance de l'agriculture?
À ce jour, nous avons plusieurs partenariats, avec notamment la Banque africaine de développement. Nous avons mis en place un programme pour les jeunes entrepreneurs dans le secteur de l'agrobusiness, PEJAB, qui existe chez nous. Nous avons des projets comme le PARSA et nous sommes en train de travailler sur la mise en place. D'ici là, il y aura un décret portant création du Fonds national FONADA pour le développement de l'agriculture.
Alors, revenons
nous
au café.
Nous avons également la loi sur l'agriculture qui va dans le sens d'aller dans une taxation ou une imposition à quasi 0%.
Dominique Béat, conseiller juridique et administratif au ministère de l'Agriculture. Revenons au café cacao qui est notre sujet de ce soir. Pourquoi d'abord ces deux ressources qui participaient de manière considérable au budget de la RDC dans les années 60, 80, sont-elles du jour au lendemain tombées en disgrâce?
Permettez-moi de je ne pense pas qu'ils sont tombés en disgrâce.
Bon, j'ai des chiffres. Dans les années 80, le pays, selon les statistiques que nous possédons, produisait autour de 120 000 tonnes, alors que actuellement, il y a deux ans, les chiffres publiés étaient autour de 12 000 tonnes seulement.
Simplement, quand je dis disgrâce, c'est peut-être le terme que vous employez. C'est vrai qu'il y a eu chute en matière d'exportation ou même d'exploitation.
10% de moins environ.
Voilà, de ces matières. Mais parler de disgrâce, non. Il s'agit simplement des politiques qui ont été appliquées antérieurement, qui sont en train d'être revues, d'où le forum qui a été organisé, l'objet de ma visite ici. Il s'agit des politiques antérieures qui ont été appliquées, que le chef de l'État veut voir changer, corriger, rectifier et recadrer. Et c'est ce sur quoi nous sommes en train de nous atteler présentement. Et aujourd'hui, quelque chose de très important qu'il faut relever dans le secteur, c'est que notre café ou notre cacao, contrairement à ce que nous pouvons avoir comme impression ou appréhension, n'était plus, ce n'est pas qu'il n'était plus exporté ou n'était plus exploité, mais simplement qu'il y avait d'autres politiques ou des canaux par lesquels ces produits étaient exploités. Je reviens du Bukavu, où il y a un groupe d'Américains ou Britanniques qui ont organisé ce qu'on appelle Saveur du Kivu, qui viennent exploiter notre café. Il y a un sujet américain qui me racontait que lors d'une cérémonie de dégustation aux États-Unis, il avait découvert que un café congolais pris sous un autre label, en fait un café pris sous un label d'un pays voisin, était un café en fait congolais. Mm. C'est-à-dire que le goût du café qu'il prenait était un café congolais.
Alors ce témoignage, oui, il est assez régulier et abondant. Oui. Beaucoup de connaisseurs disent que le café de la RDC est l'un des meilleurs au monde. Mais expliquez-nous justement...
On ne peut pas justement dans ce contexte-là, si vous permettez, on ne peut pas parler de disgrâce. Disgrâce sous-entend que le secteur ne porte plus, ne porte peut-être plus avec le nom de la République à cause de plusieurs autres politiques qui peuvent avoir entouré le secteur, mais notre café est toujours d'actualité sur le plan international. Maintenant, il faudrait que nous renforcions simplement, et c'est ce que les autres mesures pour que aujourd'hui, il porte comme il a porté avant.
Merci Dominique Béat pour ce premier moment d'échange. Allons plutôt du côté de Emmanuel Rouakagara, administrateur à la Fédération des entreprises du Congo FEC et président du comité professionnel Café Cacao pour la RDC. Emmanuel Rouakagara, de façon très rigoureuse et sans complaisance, peut-on considérer qu'il existe, comme on venait de l'entendre tout à l'heure, une industrie du café cacao en RDC?
L'industrie existe bel et bien parce que nous exportons, comme le conseiller l'a dit, aux États-Unis, en Europe, même en Corée du Sud et au Japon. Donc l'industrie existe, seulement comme vous l'avez dit. Nous sommes passés de 120 000 tonnes aujourd'hui à 11 000 tonnes ou 12 000, ça dépend d'une année à une autre. C'est même descendu jusqu'en 2010, on était à 8 000 tonnes. Et pour le cacao, je peux vous confirmer que les exportations existent, qui partent de Beni et qui partent même de Matadi. Et bien sûr, la plus grande partie part de Beni parce que c'est exploité à Ituri et au Nord Kivu. Et du côté de Matadi, il y a des sorties qui se font via l'origine, bien sûr, c'est Maïndombe, Congo central et Équateur. Je peux vous confirmer aussi que la fraude, comme on en a parlé, prend une bonne quantité du cacao et du café. Et ça passe pratiquement d'une façon officielle à Kamango, au Nord Kivu, et même dans les territoires de Lokolela, et même au Congo central. Donc la fraude et l'industrie existent. Et je pourrais même vous dire qu'il y a une coopérative dans le Sud Kivu qui a deux reprises à gagner la meilleure coupe sur tous les cafés présentés aux États-Unis, qui s'appelle Sopagbi, en 2014, je crois, en 2016. Donc l'industrie existe, le café est reconnu, et il est même prisé. Aujourd'hui, il y a même des demandes qui sont de loin au-dessus de l'offre.
Mais Emmanuel Rouakagara, pourquoi et comment expliquer les baisses de quantité produites dont on parle ici?
Bon, ça s'explique par deux raisons. Pour le café, pour votre information, sur les 120 000 tonnes que nous avions atteint, il y avait 100 000 tonnes de Robusta et 20 000 tonnes de l'Arabica. Et que les 100 000 tonnes de Robusta venaient de l'espèce Robusta. Et aujourd'hui, il y a deux raisons. La première raison, c'est que beaucoup de plantations ont été abandonnées. La deuxième raison, c'est qu'il y a une maladie qui s'appelle trachomycose, qui a attaqué ces plantations. Il y a même le CIRA de Montpellier, le centre de recherche français, qui a travaillé avec le centre de recherche de l'Ouganda et l'INERA sur ça. Et comme il n'y avait pas une reprise des investisseurs à cause de la loi agricole qui bloque, qui demande à ce que pour tout investissement agricole, que le national ait 51% des parts dans l'actionnariat sans débourser un franc. Et ça décourage un peu les investisseurs. Tant que cette loi ne sera pas changée, il n'y aura pas beaucoup d'investisseurs qui vont venir investir dans le secteur agricole. Et pour l'Arabica, je peux vous dire que les chiffres ne sont pas loin de ce qu'il y avait à l'époque, parce que comme les pays voisins ont beaucoup développé l'Arabica à cause de la demande qui est fortement dans tous les pays consommateurs, les trois provinces de l'Est, l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu, la culture de l'Arabica est bien développée et je crois même qu'on serait même au même chiffre qu'on avait à l'époque de 20 000 tonnes.
Alors, est-ce que à ce stade, vous qui manipulez bien ces ressources plus que nous autres, dans le palmarès du Robusta et de l'Arabica de la RDC, peut-on proclamer l'Arabica comme la meilleure ou pas?
Bien sûr, l'Arabica, c'est le café doux et c'est même un qui concerne le prix. Et c'est à New York que le prix est de loin supérieur. Principalement, on peut même le placer à 50% ou 100% plus cher que le prix du Robusta.
Et pourquoi sa quantité a-t-elle toujours été la plus faible?
Parce que c'est cultivé. D'abord, il y a un problème de terre à l'est. Et c'est cultivé principalement en altitude. Et les trois provinces qui sont en altitude, c'est l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Alors que le Robusta, c'est toutes les autres provinces, sur les 22 provinces où le café est cultivé. Pratiquement, je pourrais dire que 19 provinces, c'est le Robusta. Et il n'y a que 3 provinces où on cultive l'Arabica.
La FEC, votre institution, a toujours été au courant de ce potentiel. Pourquoi n'a-t-elle pas joué de sorte que déjà dans les années de grâce, les quantités puissent augmenter et dans les moments difficiles qu'ont connu ces deux ressources, qu'elles puissent survivre, soit au moins reprendre assez régulièrement?
Notre corporation, la FEC, d'abord c'est un syndicat et je crois qu'elle ne cesse de réclamer, de revendiquer tous les problèmes que les opérateurs du secteur ont, dont cette loi, dont les tracasseries qu'elles subissent, et même si vous regardez dans les recommandations qu'on a faites, ça a repris pratiquement tous les problèmes que les opérateurs connaissent dans le secteur. Je crois que la FEC ne cesse de le dire, de revendiquer. Et je crois que le conseiller qui vous êtes, il peut vous confirmer que c'est même devenu quelque part un problème presque de conflit avec les entreprises publiques quand la FEC revendique. Donc les revendications se font tous les jours et nous demandons heureusement que là-bas, avec la volonté du chef de l'État et du ministre actuel de l'Agriculture, il y a une volonté de la relance. J'espère que cette volonté sera mise en application pour que les opérateurs se retrouvent.
Mani Madika, professeur à la faculté d'agronomie de l'université de Lubumbashi, vous avez aussi travaillé dans la filière café-cacao dans plusieurs ONG internationales. Vous êtes un peu ce soir notre expert scientifique sur notre thème de ce soir. Que pensez-vous déjà des justifications des uns et des autres autour des raisons du sort connu par ces deux ressources dans notre pays?
Merci beaucoup pour la parole. En fait, moi je suis un technicien, donc ce qui est beaucoup plus important à mes yeux, c'est de faire une analyse pertinente du point de vue des faits et des réalités que nous, les agronomes, nous observons sur terrain. Voilà, donc je vais préciser qu'il ne s'agit pas de faire des déclarations pour plaire aux uns aux autres. C'est juste une analyse des faits qui existent sur le terrain. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il est connu que le café, la production du café et du cacao a dégringolé depuis la période de la zaïranisation. C'est là que, si nous pouvons analyser les filières de toutes les cultures de rente qu'il y avait au Congo, il n'y a pas que le café et le cacao, il y a le coton, il y a les veillas, etc., plusieurs autres cultures de rente. Après la zarinisation, c'est là que les problèmes ont commencé. Parce que les industries, en fait, toutes ces productions de cultures durantes vivaient des industries qui étaient les premiers acheteurs, si je peux dire. Ça veut dire, les petits producteurs et même certaines plantations existaient, mais à côté, il y avait toujours l'industrie. L'industrie qui faisait la première transformation locale pour conditionner, pour mettre les produits bruts sous des conditions, si je peux dire, exportables et pour donner une certaine valeur ajoutée à cette production de culture de rente, ce qui a été le cas aussi pour le café et le cacao. Donc, à partir du moment où l'industrie a été tuée petit à petit au Congo, c'est là que nous avons connu des problèmes de chute de production de café et de cacao. Alors, il est clair qu'il y a eu des chutes de production de café et de cacao. Et même, il y a un des auditeurs, M. Emmanuel, qui a parlé des abandons de plantations. Si les agriculteurs, un agriculteur qui se fait de l'argent, qui a un produit qui trouve un marché, ne peut pas abandonner cette production. Et donc, il y a eu abandon déjà par le fait qu'il n'y avait plus de marché à proximité de ces planteurs. Le marché qui était à proximité, c'était l'industrie. Voilà. À quoi bon de continuer à entretenir une plantation s'il n'y a pas d'acheteur? C'est comme ça que les plantations ont abandonné. Il y a eu aussi d'autres calamités qui se sont ajoutées, notamment les maladies. On a parlé de la trachéomycose, les cafés, etc. Donc, on a, en fait, au Congo, nous avons, quand on dit, nous avons beaucoup de potentiel, mais le café, le cacao, par exemple, devrait constituer des enjeux de notre pays, de notre gouvernement. Parce que ce sont des cultures, ce n'est pas des cultures qui nous amènent nécessairement à l'autosuffisance alimentaire, mais c'est des cultures de rente, ça veut dire des cultures à partir desquelles et le producteur et le pays peut générer des revenus, peut faire entrer des devises au niveau du pays. Donc voilà. C'est pourquoi ces cultures doivent être connues vraiment comme des cultures stratégiques pour le pays. Et comme monsieur Emmanuel et le premier intervenant, monsieur Dominique Béa, l'a dit, maintenant, petit à petit, même le cacao et le café coco, le café congolais commencent petit à petit à être valorisés au niveau mondial sur le marché international, puisque avec le nouveau monde, ça veut dire les nouveaux consommateurs. Alors, le cacao et le café, ce sont des produits du terroir. En fait, chaque région a sa propre saveur. Et donc, la saveur du Kivu, la saveur du Congo pour les Arabica est reconnue sur le plan international et est bien cotée. Donc, nous devons maintenant prendre ces nouvelles cultures comme des nouvelles, comme des cultures stratégiques pour le pays. Et je salue l'initiative d'organiser ce forum qui, pour moi, est un pas. Mais cela ne suffit pas. On a parlé. Cela ne suffit pas. En fait, il faut qu'on parle de l'agriculture. Mais il ne suffit pas de parler. Nous avons eu beaucoup de plans. C'est ça, en fait, notre expertise, nous les Congolais, nous sommes tous intelligents, comme on dit à l'extérieur. Le mal du Congo, c'est que tout le monde est intelligent. Nous avons des plans. Nous avons des plans stratégiques, des programmes qui ont été faits dans beaucoup de secteurs, même dans le secteur de l'agriculture. On a fait les PNIA qui étaient très bien faits. On a fait d'autres plans, etc. Maintenant, pourquoi tous ces programmes ne sont pas faits? Ne sont pas exécutés? Quel est le problème du Congo? Pourquoi, on parle de Bukangalozo, j'affirme que Bukangalozo était un échec, ce n'est pas pour accuser les gens, mais en fait, il faut qu'on ait l'expérience des échecs que nous avons connus. On a parlé des approches de Bukangalozo qui n'étaient pas bonnes. C'est que cette approche n'est pas bonne. L'approche que moi, je peux recommander en tant qu'acteur au niveau de la base, c'est qu'il faut regarder qui sont les vrais acteurs de l'agriculture. Je ne sais pas pourquoi les gens ont du mal à reconnaître la place des petits producteurs dans l'économie congolaise.
Merci, professeur. À ce stade, Voilà. Merci, professeur. À ce stade, nous reviendrons à vous tout à l'heure pour enrichir ce débat. Dominique Béa, conseiller juridique et administratif au ministère de l'Agriculture. Cette émission est aussi pédagogique et fait participer nos auditeurs, puisque nous parlons des kivus, où il y a une bonne saveur de café. Nous allons recevoir cet auditeur de Bukavu qui va partager avec nous sa lecture.
Habamungu Balibouza de Bukavu. Toutes ces recommandations ne viennent que s'ajouter à tant d'autres que l'État congolais garde dans ses tiroirs. Dieu seul sait si l'État congolais mettra en pratique celle visant à allouer 10% de son budget à l'agriculture conformément à ses engagements. Ce sont les rares États comme le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie ayant compris que l'agriculture est l'une des bases de l'économie d'un État qui nous fournissent du piment, de la tomate et des légumes. J'ai comme impression que, contrairement à beaucoup d'États africains, la RDC n'accorde aucune importance à son agriculture. Il est ridicule pour un État potentiellement riche comme la RDC d'importer les aliments dans les pays voisins alors que les mêmes aliments pourrissent à quelques kilomètres dans nos villages faute des routes et de sécurité.
Alors, monsieur le conseiller, en ce moment où toute la RDC a les yeux tournés vers les élections, reparler du café et du cacao comme une priorité, est-ce que ce n'est pas un peu un leurre?
Non, ce n'est pas un leurre. Tout à l'heure, permettez-moi de revenir sur les interventions des interlocuteurs qui sont venus juste après moi. On a parlé de manière générale des politiques, en fait. Il ne s'agissait pas d'une politique particulière appliquée, mais des politiques, notamment dans le suivi des traitements des maladies, des politiques notamment liées aux études de faisabilité avant différents types d'investissements, des études, des politiques notamment liées à l'application, comme on a dit, des petits agriculteurs ou entrepreneurs dans le secteur, des politiques notamment liées à l'industrialisation ou à la aérianisation, font partie des politiques qui ont été appliquées. Et ici, le plus important ici, ce n'est pas de se dire forcément ce qui n'a pas marché. Oui, on peut bien, c'est ce qui va nous permettre de redéfinir ou de définir mieux là où nous voulons aller. Mais ici, l'important, c'est de fixer, comme on l'a fait dans le forum, l'état des lieux, de constater ce qu'il y a, ce qui n'a pas marché, et qu'est-ce qui peut être fait. La question la plus importante aujourd'hui, à ce stade, pour nous, qui parlons pour le gouvernement, c'est de dire qu'est-ce qui peut être fait pour recadrer, rectifier. Et par le passé, si vous avez entendu l'intervention de Monsieur Emmanuel de la FEC, il vous dira que même certaines entreprises publiques allaient en guerre avec la FEC, qui fait son travail de syndicat, etc. Mais les instructions que nous avons reçues de la plus haute hiérarchie, c'est que nous ne devons plus aller dans une politique où vous avez d'un côté la fédération des entreprises qui se bat et de l'autre les entreprises publiques, etc. Il faudrait que nous arrivions à créer un cadre de synergie qui permette aux partenaires de se mettre et de travailler, parce que ici l'intérêt, c'est en réalité pour les hommes d'affaires de générer du revenu, et s'ils sont en mesure de générer les revenus tels qu'ils vont, ils l'envisagent, c'est bénéfique pour la République. Il faudrait que les partis en présence comprennent, c'est ce à quoi le chef de l'État nous a invités. Et aujourd'hui, comme vous parlez des élections, on ne peut pas envisager un seul instant dissocier les élections à une meilleure vie. Comment voulez-vous que quelqu'un aille voter s'il ne sait pas avoir des revenus qui lui permettent ne serait-ce que de prendre son taxi pour aller jusqu'à son lieu de vote?
Non, mais conseiller Béa, vous parlez justement de rentabiliser ici. Les problèmes du café cacao ont été identifiés dans le forum que nous avons mentionné tantôt, et parmi les obstacles, on a relevé notamment une taxation élevé et qui mine donc toute relance éventuelle. Comment vaincre ce problème?
Taxation élevée, je ne sais pas aller dans cette logique-là ou dans cette optique-là, mais ce que je veux attirer l'attention des opérateurs, c'est que contrairement...
La recommandation 4 de ce forum dit suppression des taxes abusives à l'exportation, notamment par l'observance stricte du code agricole.
Oui, il s'agit des recommandations que nous avons envisagé de couler en programme, mais après avoir débattu éventuellement au conseil de ministres et voir qu'est-ce qui peut être retenu et qu'est-ce qui ne peut pas être retenu. Quand on parle de surtaxation, etc., il faudrait bien qu'on comprenne de quoi il s'agit en matière de taxation. Qu'est-ce qu'on appelle surtaxation? Et deuxièmement, il faudrait savoir que nous sommes le seul pays au monde, c'est ce que j'allais dire, c'est que où quelqu'un peut venir en République démocratique du Congo, faire des revenus et espérer ne pas être frappé d'imposition ou d'une quelconque redevance liée à la richesse qu'il a pu générer. Donc il faudrait à un moment donné que l'État puisse vivre, parce qu'on veut que l'État fonctionne, etc. L'État ne peut vivre qu'en fonction de ses taxations, de ses impositions, etc. et pouvoir faire différentes prévisions budgétaires.
Donc, alors d'autres obstacles, c'est notamment un nombre impressionnant de services, s'il vous plaît, des tracasseries administratives.
Permettez s'il vous plaît, si vous allez sur la loi agricole en examen aujourd'hui, même la loi pour nos principes fondamentaux liés à l'agriculture, le nombre d'exonérations qu'il y a, nous allons aujourd'hui, j'avais les textes devant moi, mais je les ai un peu perdus, mais vous voyez le nombre d'exonérations qui ont été mises en place pour pouvoir relancer le secteur, mais c'est quand même incroyable. Et nous sommes allés dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est d'aller même jusqu'à un taux d'imposition qui environnerait les 0% en matière agricole, simplement pour booster l'activité. Mais ce sont des mesures qui seront prises peut-être pour un moment donné, exécutées pour un moment donné, parce qu'il faudra bien que ceux qui vont être en mesure de générer des revenus puissent donner quelque chose à l'État en contrepartie des revenus qu'ils auront générés dans leurs exploitations.
Merci Emmanuel Rouakagara. Nous ne quittons pas l'est du pays où le café et le cacao est bon vivre. Et cette fois-ci, c'est un auditeur de Butembo que nous allons accueillir.
Josie Kakule Mouteke depuis Butembo. Bien que la recommandation du forum soit fondée, je pense que le moment est mal choisi. Je pense que ce qui est prioritaire pour le moment, c'est le renouvellement des animateurs des institutions à travers les élections. Bien que l'agriculture, socle du développement et du bien-être, ne doit pas être mise de côté, je ne pense pas que ce gouvernement s'y implique. Le mal est à profond, manque de politique agricole, l'inexistence des routes de desserte agricole, de sécurité, ça de Beni Lubero, la politique doit être généralisée, donc ça doit être pour un gouvernement qui commence et doit être étalé sur un mandat. Ainsi, je pense qu'il fallait plutôt renouveler les institutions au lieu de demander à ce gouvernement finissant de s'y impliquer.
Emmanuel Rouakagara, administrateur à la FEC, qu'est-ce que vous pensez de cet avis de Butembo? Emmanuel Rouakagara, est-ce que vous êtes encore avec nous? Nous reviendrons à Emmanuel Rouakagara tout à l'heure. Nous allons prendre plutôt ces derniers auditeurs, Évariste, dont la réflexion, nous voulons l'exposer plutôt au professeur Madika.
Je suis Jacques Moussa Évariste depuis Bukavu au Sud-Kivu. Les recommandations de ce premier forum Café Cacao sont appréciables d'autant plus que, une fois appliquées, elles permettraient d'exploiter les 60% de terres arables toujours en jachère et effacer progressivement la RDC de la liste des pays importateurs de presque tout. Cependant, le sort qu'a connu le redoutable projet de Bukangalonzo après le gros de financement qu'il a eu et l'attente de publication qui l'a entouré, n'est pas de nature à créer confiance à ce régime au pouvoir. Et donc, c'est un appel qui n'aura pas de suite immédiate dans le camp du gouvernement, dont la priorité se trouve orientée ailleurs, malgré sa signature apposée sur l'accord de Maputo. Encore faudra-t-il que les dirigeants congolais se sentent engagés par leur signature, comme pour dire que le gouvernement congolais demeure un partenaire valable, mais très peu crédible.
Professeur Mani Madika, à la réflexion d'Évariste, j'aimerais aussi associer cette question. L'Afrique est la meilleure productrice du café cacao dans le monde, hein, mais pourquoi est-elle la dernière consommatrice et aussi la dernière bénéficiaire financière?
Merci beaucoup. En fait, je voudrais d'abord revenir sur les intervenants qui nous ont appelés par téléphone. En fait, ce que je ressens, en fait, dans ces trois intervenants, c'est que il y a un manque de confiance, en fait. Les gens n'ont plus confiance. Par exemple, le monsieur de Bukavu qui vient d'appeler, il se dit, mais bon, écoutez, il n'y a pas... tout ce que vous avez dit dans ce forum, c'est bien, encore faudra-t-il que ça soit appliqué, mais je suis sûr qu'il n'y aura pas de suite, il y a un manque de confiance. En fait, l'autre monsieur de Boutembe, il dit, mais comment voulez-vous me parler de la filière café-cacao alors qu'il y a, de l'insécurité et tout ça, on sait qu'il y a un renouvellement. En fait, tout ça, c'est pourquoi, en fait, c'est pour recentrer la filière cacao commence, évidemment, par le marché, mais se termine par le producteur. Ça ne commence pas par... s'il n'y a pas de marché, il n'y a pas... ça ne vaut même pas la peine qu'on parle de cette filière en ce moment. Le marché, il est là, il est visible. Le nouveau monde, comme on dit, il y a de nouveaux consommateurs, il n'y a pas que les Américains, les Européens, il y a l'Asie. Évidemment, vous parlez du café, de la consommation du café et du cacao en Afrique. C'est vrai que nous sommes loin, de loin les derniers consommateurs par rapport aux autres continents. Mais n'empêche que c'est en train de venir. En fait, à l'époque, vous devez savoir que les cultures, la consommation du café et le café lui-même, ce sont des cultures qui ont été faites, si vous connaissez, vous essayez de voir l'histoire, qui ont été introduites ici par, avec le temps colonial, je peux dire, et que c'était que pour l'exportation. Il n'y avait rien qui était... il n'y avait pas de promotion de la consommation locale. Mais n'empêche que dans certains villages, surtout dans les Kivu, il y a quand même une certaine culture de consommation de café parce qu'ils ont vécu à proximité de ces cultures et ils ont... mais ce n'est pas tellement étendu. Mais c'est là, on n'est pas obligé, nous, Africains, d'être des grands consommateurs de café. Mais si le café est déjà bien demandé... sur le plan international et que ça peut nous faire de l'argent, nous, en tant que Congolais. Donc voilà, donc si on peut aussi promouvoir la consommation au niveau local en Afrique, ok, c'est tant mieux. Mmh. Mais,
pour le cas du café de la RDC, professeur, les statistiques racontent aussi que bien qu'elle soit si formidable, très bien appréciée, elle est malheureusement vendue à des prix très inférieurs. Comment expliquer ça?
Non, en fait, de plus en plus, c'est vrai que qu'est-ce qui fait le prix du cacao ou du café sur le marché international? C'est d'abord la certification. Vous savez, si vous pouvez avoir un bon café, mais s'il n'est pas certifié, il n'aura pas le prix d'un produit certifié. Alors, pour qu'il y ait certification, donc il faut qu'il y ait une certaine inspection. Mais c'est au niveau des producteurs. C'est pourquoi je vais revenir et insister sur le fait que nous devons centrer notre attention sur les petits producteurs. Ce sont les messieurs, monsieur Tel, monsieur Diamond, monsieur Kassereka qui est dans son Luber ou dans son territoire de Luber ou de Beni. Ce sont ces messieurs-là qui produisent le cacao et le café qui est exporté du Congo. En fait, si nous centrons notre attention, si la fête veut faire l'affaire, la fête ne fera pas de business avec le cacao s'il n'y a pas de production.
Alors,
donc, s'il n'y a pas de production, il n'y aura pas de business. Et donc, moi, je vais insister sur l'approche. L'approche est qu'on se centre sur les petits producteurs.
Merci, professeur. Merci de votre contribution. Nous retrouvons Emmanuel Rouakagara. Est-ce que vous avez écouté la réaction de l'auditeur tout à l'heure? Emmanuel Rouakagara?
Allô?
Ah oui, l'auditeur qui faisait une réflexion, vous adressait, estimait que les recommandations soient pertinentes, mais le moment est mal choisi. Il disait, je le cite, le mal étant profond, manque de politique agricole, l'inexistence des routes, de dessertes agricoles et l'insécurité. La politique agricole doit être un programme d'un gouvernement entrant qui en aura suffisamment le temps et les moyens. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que on ne peut pas attendre alors que chaque jour les gens doivent manger. Les gens qui ont produit leur production de café, de cacao, ils doivent le transformer, le vendre, exporter. Et la vie continue et tout le monde mange chaque jour. Donc on ne peut pas attendre le jour où on mettra ce gouvernement en place. Il faut travailler.
Alors, il a été proposé au gouvernement de mettre 10% du budget du pays pour cette relance-là. Est-ce que c'est pertinent selon vous et est-ce que vous pensez que dans les conditions actuelles, le gouvernement peut répondre favorablement à cette revendication?
Absolument. J'ajouterais même que dans les 10%, il y a 2% de recherche. Parce que sans la recherche, c'est difficile de relancer les filières. Et les 10%, si on les met en application,
Emmanuel Rouakagara, nous sommes désolés d'intervenir. La ligne est mauvaise. On n'arrive pas suffisamment à écouter votre propos. En guise de conclusion, Dominique Béa, il a été recommandé au gouvernement de mettre en place ou à la disposition pour la relance 10% du budget. Est-ce que cela est possible? Surtout maintenant, est-ce que ce n'est pas un peu une recommandation qui va encore prendre du temps?
Oui, c'est une recommandation possible, applicable, mais qui prendra du temps, comme vous le dites, parce que c'est vrai qu'on a fait de l'agriculture la priorité des priorités, mais il faut permettre à l'État de réunir les moyens de sa politique, et c'est ce sur quoi nous sommes en train de nous employer présentement. Déjà, le mois prochain, il y aura un sommet des chefs d'État, où on va réfléchir sur l'applicabilité pour les recommandations qui ont été faites à Maputo sur l'applicabilité de ces 10% dans le budget des États pour lesquels cela tarde encore à se mettre en mouvement. Réfléchir sur tous les contours, le pourquoi de la non-applicabilité et voir les options pratiques que l'on pourra lever pour pouvoir les mettre en pratique.
Merci Dominique Béa d'avoir participé à cette émission. En quelques mots, professeur Madika, est-ce que recommander au gouvernement en ce moment-ci un budget pour la relance de la culture du café et du cacao, est-ce que ce n'est pas un peu illusoire?
Non, nous ne pouvons pas perdre espoir. Ce que nous devons encourager, accompagner notre gouvernement à faire sa politique et à faire une bonne politique. Et donc, moi, je les encourage, ça ne coûte pas cher de faire l'encadrement des petits producteurs. Vraiment, c'est ça qu'il faut penser. Donc, encadrer les petits producteurs, juste qu'ils fassent de bonnes pratiques, qu'ils soient certifiés, qu'ils trouveront, qu'on les aide à se connecter au marché.
Merci, professeur. Emmanuel Rouakagara, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, je suis allé.
Alors, en 10 secondes, les recommandations du forum Café Cacao peuvent-elles se réaliser rapidement dans les 2, 3, 4, 5 mois?
Ça peut se réaliser comme la volonté est là et comme le chef de l'État lui-même, le ministre de l'Agriculture et tout le gouvernement
Merci Jean-Noël Mokondo à la technique, Alain Irung à la réalisation, Kipela Mondo supervision, Donna Madimba c'est moi. Merci d'avoir écouté cette émission. Au revoir.